Allez, allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio Bartas, vous êtes bien sur le 107, c'est l'heure des instants des Bartas. Et aujourd'hui, nous serons dans un instant avec Claire Perraudeau, comédienne et metteuse en scène pour la compagnie L'Hiver Nu. Nous partageons tellement de valeurs communes avec cette compagnie et le 8 février prochain, à la fabrique du Viala, la nuit est jolie, L'Hiver Nu organise son banquet de soutien aux migrants et aux migrantes. Et en ces temps troubles, ça fait partie des choses ô combien importantes. On parle de tout ça avec Claire juste après cette chanson magnifique de Grand Corps Malade au feu rouge.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillon. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Vous êtes bien sur Barthas et nous sommes par téléphone avec Claire Perraudeau. Bonjour.
Bonjour.
Tu es comédienne et metteuse en scène pour la compagnie L'Hiver Nu. Et le 8 février prochain, vous organisez un banquet de soutien aux migrants, aux migrantes. On va en parler. Votre camp de base, c'est la fabrique du Viala à la Nuéjol. Gageons qu'il y ait des nouvelles oreilles qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ta compagnie. Dis-nous tout sur L'Hiver Nu.
Alors, L'Hiver Nu, c'est une compagnie qui commence à dater puisqu'on l'a créée en 2007. À l'époque, on était à Pantin dans le 93. Et on a créé la compagnie parce qu'on avait un projet sur le territoire du Val d'Aunès, où il y a maintenant la fabrique théâtrale du Viala, de feuilletons de théâtre chez l'habitant. Mmh. Et pendant un an, toute l'année 2008, on est venu une fois par mois jouer un nouvel épisode de ce feuilleton de théâtre chez l'habitant qui avait été écrit par commande à quatre auteurs contemporains. Mmh. Et en 2011, on s'est installé sur la commune de la Nuéjol, pas très loin du château du Boy. On a récupéré l'ancienne colonie de vacances des Sœurs de la Providence et on en a fait un lieu de travail qui est aussi à côté notre lieu de vie, mais dans lequel on répète nous nos créations, dans lequel on invite les artistes qui le souhaitent et qui en ont la nécessité à venir travailler, à profiter des locaux. Et puis depuis maintenant bientôt 10 ans, une fois par mois on ouvre pour que les artistes et les habitants du territoire se rencontrent et on fait de grands banquets.
Du partage, c'est ça qui est bon. On est plutôt bien lotis, je trouve, en Lozère, au niveau culture. Quel est ton avis là-dessus? En termes de lieu, mais aussi en termes de compagnie?
Il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup, beaucoup de programmation. Je pense qu'il pourrait y avoir encore plus d'artistes et de compagnies, que ce soit dans le spectacle vivant ou dans d'autres domaines. Il y a encore de la place, en tout cas, pour que de nouvelles personnes arrivent et fassent des propositions, mais en tout cas, il n'y a pas un soir sans lequel il y a quelque chose qui se passe à un endroit ou à un autre de la Lozère, c'est sûr. Mmh.
Vous êtes, comme on dit dans le jargon, une compagnie complice des scènes croisées. C'est important d'avoir des partenaires comme eux.
Oui, c'est important parce que malgré tout, il n'y a pas beaucoup de structures très costauds au sens très financé par l'État, la région, les départements. Il y a effectivement les scènes croisées. Ça permet de consolider toutes nos aventures. Alors l'association, elle s'est terminée au 31 décembre dernier. Ah. On en a profité pendant de nombreuses années, donc c'était super. Et puis c'est normal que la place passe à d'autres maintenant. Mais c'est sûr que pour nous, ça nous a permis de pouvoir tranquilliser nos projets.
Ouais, c'est ça. Après, c'est pareil en termes financiers. Je suppose que vous êtes un peu comme tout le monde, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou bien pour vous, ça va?
Non, c'est comme tout le monde, ça se resserre, les angoisses arrivent, on va tout faire pour tenir quoi qu'il arrive et puis pour prendre cette période un peu calmement, parce que pour pas paniquer surtout, continuer à proposer des choses, mais c'est sûr que comme, bon, il y a plein d'autres secteurs qui sont touchés, mais les nouvelles vont pas être bonnes et puis ça va s'accélérer.
Ouais, c'est sûr. Le 8 février, vous organisez donc un banquet dont les bénéfices iront pour des associations qui aident les migrants, les migrantes. Alors quand on voit les discours politiques flippants, notamment celui du Premier ministre qui parle de « j'ai vraiment peur et mal de dire ce mot », qui parle de submersion, c'est ultra important d'être plus que jamais présent pour aider des personnes qui en ont rudement besoin.
Oui, oui, ça fait de nombreuses années qu'à la compagnie, on est hyper attentif aux personnes qui arrivent sur le territoire français en général et puis évidemment en Lozère en particulier, à voir comment on peut les soutenir, comment on peut les accompagner. Il y a plusieurs membres qui font partie des différentes associations, que ce soit Réseau Éducation Sans Frontières ou les autres collectifs qui s'organisent aussi un peu partout. Et c'est sûr que là, ça va être tellement difficile pour eux qu'il faut qu'on se serre les coudes encore plus.
Nombreux sont les combats amenés, alors on ne peut malheureusement pas être sur tous les fronts. D'où vous est venue l'envie de soutenir les migrants et les migrantes?
Je pense que c'était une sensibilité qu'on avait depuis toujours, et puis après, par le biais de personnes proches de la compagnie, il y a eu cette évidence-là qui nous est apparue, que la Lozère est un territoire encore tellement plein de places, avec tellement de maisons vides, que ça nous semblait absolument inconcevable que des personnes arrivent ici et ne puissent pas être accueillies, alors que y a des maisons vides, il y a aussi plein de secteurs où les patrons ne trouvent pas de travail, et des personnes qui sont là et qui, alors malheureusement en plus pour elles, sont prêtes à tout, même aux travaux les plus ingrats et les moins bien payés.
C'est clair.
Et du coup, ça nous semblait que en Lozère encore plus qu'ailleurs, c'était une aberration totale de ne pas les accueillir dignement.
Ouais, puis nous on a eu le cas en sud Lozère où des écoles peuvent être sauvées aussi grâce à l'arrivée de migrantes, ça oui. fait de la vie. Et puis la diversité des cultures est ô combien importante. Alors la question peut paraître simple et peut-être simpliste, je ne sais pas. Est-ce que selon toi la culture se doit nécessairement d'être engagée?
J'ai parfois le sentiment que c'est pas possible d'être dans la culture sans être engagé quelque part. J'aurais tendance à dire que tout un chacun et toute une chacune se doit d'être engagé à l'heure actuelle parce que la misère augmente, les fragilités de plein de monde augmentent et que je vois pas comment on peut faire sans être solidaire et se serrer les coudes plutôt que se replier sur soi. Après, je pense aussi qu'il y a des gens qui font des spectacles en pensant plutôt à la dimension de se faire du bien, se faire plaisir, penser à autre chose. Et je pense que ça peut aussi être une forme d'engagement, de changer les idées et de voir les choses aussi parfois uniquement par le rire, par exemple. On en a aussi besoin. Je pense que c'est un savant mélange des deux.
Ouais, c'est ça, c'est une bonne balance et un équilibre à trouver.
Ouais.
Est-ce que justement le public répond présent à vos événements? Je pense au banquet parce que vous en avez fait un autre l'année dernière, il me semble.
Oui, globalement oui. Les banquets en règle générale attirent du monde et plutôt de plus en plus de monde, particulièrement depuis l'épisode qu'on appelle Covid. On voit que les gens ils ont besoin de se retrouver, besoin d'échanger dans quelque chose de convivial. Ce qui est assez intéressant pour nous, c'est de se rendre compte que sur le banquet qu'on appelle maintenant banquet sans frontières, c'est pas forcément les mêmes personnes qui viennent que les personnes qui viennent quand on propose des spectacles entre guillemets un petit peu plus classiques. Pour nous, c'est intéressant de voir qu'à la Fabrique, il y a des publics différents qui se rencontrent. Et puis après, on aimerait bien que encore plus de ponts puissent se faire justement entre des personnes qui vont venir plutôt par volonté d'engagement et de solidarité, et puis d'autres qui viendront plutôt pour voir des spectacles. Et tout notre enjeu, ça, petit à petit, que ces personnes-là se décloisonnent aussi.
Est-ce que tu peux nous parler plus en détail du programme justement du 8 février? Ça va commencer à 16h, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On a mis l'axe cette année sur le banquet justement parce que les nouvelles sont inquiétantes sur le plus possible la convivialité et la bonne humeur. Donc essayer de se dire qu'on va pas trop appuyer sur ce qui va pas, mais essayer d'avoir un moment qui soit un vrai moment partagé entre les familles ou les personnes seules qui arrivent en Lozère et les habitants, les habitantes. Du coup, à 16h, à partir de 16h, il y a deux moments au choix. Il y a la préparation du repas du soir, qui va être fait principalement avec des familles qui arrivent, donc des personnes géorgiennes qui vont proposer de leur côté des plats géorgiens, des personnes qui arrivent plus du Congo qui vont proposer des plats plus de ce coin-là de l'Afrique. Et puis du coup, on va préparer petit à petit un grand buffet qui va être le plus possible multiculturel au niveau des goûts et des saveurs. Et puis en même temps, celles et ceux qui ont moins de goût pour faire la cuisine ou qui ont envie de faire un peu des deux peuvent participer à un atelier d'art plastique. Ça fait plusieurs années déjà que Nathalie Masnec, et plutôt du côté de Florac d'ailleurs, puisqu'elle est installée à Artigues, propose à chaque banquet des ateliers d'exploration manuelle. Alors avant, c'était dédié plutôt aux enfants, puis maintenant, c'est tout à fait toute génération confondue. Et du coup, pour ce banquet-là, elle propose à chacune et à chacun de réfléchir à un plat, une spécialité, quelque chose qui se boit ou qui se mange et qu'on apprécie particulièrement et d'essayer de se souvenir dans quel contexte on l'a mangé ou découvert. Venir faire une grande fresque qui viendrait avec soit du collage, soit de la peinture, soit du modelage, raconter un peu tout ce qui se passe autour de ce plat et du moment où on l'a mangé pour essayer de faire se rencontrer un peu justement encore des univers différents.
Alors, excellente idée, par la suite, à 18h30, il y a un partage de chansons du monde.
Oui, on a demandé aussi aux personnes et aux familles qu'on accompagne de réfléchir à une chanson qui leur parle de leur pays et qu'elles pourraient avoir envie de nous apprendre. Et du coup, pendant une heure ou un peu plus, on verra le temps que ça nous nécessite, on apprendra tous et tout ensemble ces chansons-là pour ensuite pouvoir les chanter au cours du banquet.
On n'a pas dit, c'est bien les ateliers qui sont à 5 euros, c'est ça?
Oui, on demande une participation qui nous permet essentiellement de renouveler au fur et à mesure le matériel.
Très bien. Et à 20h30, le banquet qui sera à prix libre et conscient, c'est bien ça.
Tout à fait. Et puis on incite pour celui-là encore plus que pour les autres, les personnes qui le peuvent, à abonder dans le chapeau, puisque tous les bénéfices iront aux associations qui, dans notre coin, aident les migrants à mieux s'installer. Donc particulièrement, ce sera cette année RESF. Et puis, on a l'an dernier, à l'occasion de ce banquet-là, monté un collectif d'habitants du Val-d'Aunès et de Mende, qui s'appelle le Réseau des habitants solidaires, qui s'occupe plus d'aider les personnes du coin dans du loisir, justement, dans des activités autres que juste chercher du travail ou des papiers, et qui s'occupe de tenter une intégration plus par le fait de, ensemble, aller marcher dans les beaux coins de la Lozère, de les emmener aussi à des activités, par exemple, d'art plastique pour les enfants ou de théâtre, de sortir au théâtre avec nous et d'essayer comme ça aussi qui rencontre le plus de monde possible.
Et oui, et pas de penser qu'à l'administratif et au poids qu'ils ont sur les épaules, bien sûr.
Ouais.
On va aussi parler un peu de votre avenir proche. Hein. Si je ne m'abuse, le 22 mars, vous remettez, encore cette année, la semaine de la marionnette et des formes animées.
Tout à fait. Le banquet suivant, c'est le banquet marionnette. Alors, ça se situe toujours autour du 21 mars. C'est le samedi, donc c'est jamais forcément pile le 21 mars. Mais le 21 mars, c'est la journée mondiale de la marionnette et de tous les arts associés à la marionnette. Et du coup, ça fait quelques années qu'on a décidé, autour de cette journée-là, d'inviter une compagnie de marionnettes pendant une semaine à la fabrique à venir chercher autour des spectacles qu'elle a besoin de faire. Et on essaye, avec cette compagnie-là chaque année, d'aller un peu plus dans les villages autour aussi, pour que tout se passe pas uniquement à la fabrique, et montrer que la marionnette, c'est pas uniquement Guignol, même si Guignol, c'est hyper bien, que c'est pas uniquement pour les enfants, même si les spectacles pour enfants, c'est super, mais qu'il y a une grande diversité dans ce qu'on appelle le théâtre de marionnettes, que ça peut être du théâtre d'objets, que ça peut être aussi du théâtre d'ombre. Cette année, c'est une compagnie qui vient avec de la manipulation classique de marionnettes, préparer un spectacle qui s'appelle Salvette, et qui va être un spectacle prévu ensuite plutôt pour l'extérieur.
Et ce sera bien le samedi 22 mars. On en reparlera, auditeurs, auditrices, sur cette antenne, notamment dans notre agenda. Est-ce que vous avez d'autres projets de pièces pour cette année 2025? Bah oui, j'ai vu un Blumus, je pense, avec Baptiste Étard, hein, bien sûr.
Exactement. La compagnie, là, l'équipe de la compagnie est en train de sortir la prochaine création, qui sera pour l'automne, qu'on prépare depuis un an et demi maintenant. Un Blumus, on va être deux au plateau. Il y aura beaucoup de, plutôt ce qu'on appelle du théâtre d'ombre, avec une fabricante d'images qui s'appelle Sophie Lécuyer, qui est à Nancy, et qui nous crée, qui travaille beaucoup avec des cyanotypes, c'est les images qu'on peut voir, les visuels qu'on peut voir sur nos plaquettes. Et ça va raconter l'histoire d'un couple qui vit proche du Mont Lozère, et l'homme meurt, et sa compagne décide non pas de l'enterrer, ni même de l'incinérer, mais de l'humuser. C'est un processus qu'on n'a pas le droit de faire en France, qui se fait aux États-Unis, et il s'agit en fait de faire du compost avec nos corps lorsqu'il n'y aura plus de vie dedans. Et du coup, on a pensé à ça parce que, comme on essaye, nous, avec la compagnie, d'écrire en ce moment des pièces qui traitent de la relation que les humains peuvent avoir ou ont, des relations d'attention qu'on pourrait avoir avec les milieux qui nous entourent et surtout tous les autres vivants. C'est Baptiste qui a eu l'idée du scénario et qui s'est dit c'est intéressant de penser au compostage parce qu'en fait ça veut dire moins, mais en fait devenir le terreau de plein de vie possible pour des végétaux ou pour d'autres animaux, et on trouvait ça intéressant de travailler sur le fait que l'être humain soit pas le bout de la chaîne mais un petit maillon comme tout le monde.
Et espérons que la loi évolue, sait-on jamais.
Ouais.
Un Blumus, oui, vas-y, avec plaisir.
Oui, pardon. Et du coup, toute l'histoire va raconter ensuite, cette femme-là va se poser la question de où déposer tout ce compost, et elle va errer et retraverser le Mont Lozère qu'elle connaît déjà bien, avec l'idée d'y déposer l'humus de son compagnon. Et du coup, elle va porter un autre regard, et c'est une manière pour nous de faire un voyage à travers le Mont Lozère qui est une montagne qui nous touche beaucoup.
Un Blumus, la nouvelle création de Livernu. Vous allez pouvoir, auditeurs, auditrices, retrouver toutes les dates sur le site. C'est assez simple, c'est livernu.com. Vous avez des valeurs qu'on partage, franchement. Le 8 février, c'est à la Fabrique du Viala, à La Nuéjolle, que ça se passe. C'est le banquet de soutien aux migrants, aux migrantes, organisé par vous. Merci et bravo, Claire.
Merci beaucoup.
Tu en es l'une des comédiennes et metteuses en scène. Je vous souhaite une excellente année et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Et voilà, c'est la fin de ces instants des Bartas. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Ciao.
C'est, bon, des fois c'est facile, des fois c'est pas facile, mais toi t'étais toujours là et t'es quelqu'un de très très bienveillant et qui est toujours vraiment important pour la musique en France. Donc je te remercie beaucoup, 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 beaucoup pour toutes ces années où t'as tenu. Merci Isabelle. Pour Isabelle et bip bip. Wow. Fou. ne sais pas où tu vas. Tu ne sais même pas où tu m'emmènes. Regarde devant et marche droit. Mon amour est l'ombre qui ne te quitte pas. Antoine Mangodon à la guitare, Florence Avigny à la batterie, Juan Le Guilbon à la basse, David Aubel au clavier.